Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. C'est une émission pour moi qui est un peu exceptionnelle que je vous propose aujourd'hui parce que c'est un voyage. C'est un voyage au bout du monde. 12 heures de décalage, quelque chose comme 20 heures ou 22 heures d'avion, avec probablement plusieurs escales. C'est un pays du bout du monde. Petit pays, mais grand pays aussi, par sa culture, son histoire. Les Maoris l'ont appelé Aotearoa, sans l'accent maori. Bien sûr, vous m'excuserez. Pour nous parler de ce pays du bout du monde, eh bien quelqu'un que je sais que vous connaissez, que vous appréciez, qui nous fait voyager depuis 25, 30 ans, 40 ans à travers le monde, que j'ai reçu la dernière fois il y a 2 ans, c'était pour la Polynésie. Je suis heureuse et vraiment ravie de retrouver Antoine pour ce nouvel ouvrage, La Nouvelle-Zélande, aux éditions Gallimard. Bonjour Antoine.
Bonjour, kia ora, comme on dit là-bas.
Parfait, voilà, ça y est, le ton est donné. Donc je disais, on vous retrouve au bout de 2 ans avec ce magnifique voyage que vous nous offrez au travers d'un livre magnifique avec une belle écriture et surtout de magnifiques photos que vous avez faites, vous et avec votre compagne Francette. Je disais, pour ce pays du bout du monde, petit et grand pays formé de 2 îles, la Nouvelle-Zélande. La New Zealand, comme l'avait appelé un des découvreurs hollandais, puisque ça lui rappelait sa Hollande natale et lointaine. Alors, tout d'abord, je dirais que c'était pas la première fois que vous mettiez les pieds en Nouvelle-Zélande, si je vous ai bien lu.
Oh, c'est pas la première fois, non. La Nouvelle-Zélande, c'est une grande histoire d'amour pour ma compagne française et pour moi-même.
Oui.
Et on y a fait plusieurs voyages en bateau, en avion, des courts, des plus longs.
Oui.
Et dans le cadre du tournage d'un nouveau film, puis de la réalisation de ce nouveau livre pour Gallimard, on a fait plusieurs voyages successifs. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images et le plus dur, c'est d'aller choisir parmi toutes les images.
Comme d'habitude, bien sûr.
Je suis en train de monter le... C'est une autre aventure de travailler au montage du film.
Parfait.
Qu'on a tourné aussi et qu'on va présenter en tournée à partir du mois de mars.
Ah, super.
Il y a tellement de belles images, il y a tellement de paysages, de rencontres, de choses extraordinaires qu'il y a de quoi faire plusieurs livres ou plusieurs films.
Alors, je vous envie à plusieurs titres parce que c'est un pays que je connais par mes lectures et par la découverte, que je ne connais pas physiquement. Et c'est un pays que j'ai envie de découvrir. Et nul doute qu'après cette émission et après votre livre, les Français auront envie d'y aller. Alors, je disais, c'est 12 heures de décalage horaire. C'est quelque chose comme 20 ou 22 heures d'avion. Et on arrive dans ce pays du bout du monde, le pays des kiwis. Ils ont la tête à l'envers, la tête en bas. L'originalité de ce pays, c'est son histoire, parce qu'en fait, son histoire est très ancienne. Elle remonte finalement à l'arrivée des Polynésiens vers le XIVe siècle.
Voilà, l'histoire géologique est très ancienne, bien sûr,
avec
le volcanisme très très présent, des paysages, des phénomènes volcaniques incroyables et tout.
Oui.
Mais côté être humain, c'est un petit peu le dernier endroit qui a été découvert, puisque c'était... L'endroit était resté désert jusqu'à l'année 1300, à peu près, de notre ère.
Oui.
Jusqu'à 1300. C'est à ce moment-là que sont arrivés les premiers navigateurs polynésiens qui arrivaient de Tahiti, des îles sous le vent, et qui ont découvert, comme vous le disiez, qui ont vu apparaître après des journées ou des semaines en mer, ont vu apparaître un long nuage blanc.
Oui.
Et ils ont donné à ce pays le nom de long nuage blanc.
Aotearoa.
En Maori, Aotearoa. Voilà.
Le pays du nuage blanc. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, les colons, que ce soit les Écossais, les Anglais, les Irlandais qui arrivaient, voyaient une des premières choses en arrivant en bateau selon nuage blanc, bien souvent.
Voilà. Et après, les Européens ne sont arrivés que 3 siècles plus tard, 4 siècles plus tard.
Mm-hmm.
Le premier, vous le disiez, c'était un Hollandais, Abel Tasman.
Oui.
Abel Tasman, mais il n'a pas été très heureux parce qu'il a fait escale dans une baie, il a été attaqué par des Maoris qui se demandaient ce que c'était que ça. Ils craignaient l'arrivée de ce bateau étrange. Donc il s'est sauvé très vite, ayant baptisé la baie où il avait fait escale, la baie du massacre, c'est tout. Mais il est parti très vite. Par contre, c'est un siècle après que le capitaine Cook est arrivé.
D'où le détroit de Cook entre les 2 îles.
Voilà, et puis le nom de Cook est partout en Nouvelle-Zélande.
Oui.
Et puis, il y avait également enfin, d'autres navigateurs qui sont arrivés, quelques Français également, mm-hmm. comme Dumont d'Urville,
oui.
qui sont arrivés, qui ont navigué dans les eaux et qui ont failli, à un moment, on le racontera après, je le raconterai dans le livre, qu'à un moment, à quelques jours près,
on a failli
une partie de la Nouvelle-Zélande aurait pu devenir française.
Eh oui, c'est malheureux, c'est dommage. Alors,
oui,
je disais...
C'est très accueillant.
Oui, alors il y a deux îles, hein. Il y a l'île du Nord, où il y a la capitale, Auckland. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'est quoi? C'est à peu près 5 millions d'habitants?
Oui, je ne dois pas dire de bêtises, mais c'est dans peut-être un petit peu plus.
Oui.
C'est dans ces eaux-là. Mais Auckland n'est pas la capitale. Hein. La capitale, c'est Wellington.
C'est Wellington qui est là, l'état capitale, oui, c'est ça. Oui,
voilà, qui est au sud de Wellington est la capitale de... C'est la capitale de la Nouvelle-Zélande,
oui.
mais Auckland est la plus grande ville.
C'est la plus grande ville, c'est ça.
Wellington, qui est surnommée la ville balayée par les vents,
oui, oui.
Elle est au sud de l'île du Nord, sur le détroit de Cook.
Oui. Alors, il y a d'autres villes hein, très célèbres, la Christchurch, il y a Dunedin qui a été... souvent, enfin, occupée dès le départ par des Écossais, si.
Voilà, c'est une ville écossaise et on voit écrit Dunedin, ça s'écrit D-U-N-E-D-I-N, mais
oui.
en fait, ça se prononce Dunedin. Mm-hmm,
c'est ça.
Il y a des traces de l'occupation dans l'architecture, etc. Ce sont des Écossais qui sont arrivés.
Oui.
Puis autour de toutes ces villes, bien sûr, il y a
d'autres villes.
Une nature qui est très très préservée.
Très préservée. Oui.
C'est un pays qui est très, très soigneux de son environnement.
Alors, il y a une ville, je crois que c'est Taranaki, qui est vue de l'espace. On la voit de l'espace.
Alors, Taranaki. Non,
Taranaki.
Taranaki, c'est une montagne, un
oui.
volcan.
Oui.
Il y a toute une série de volcans, spécialement dans l'île Nord.
Mm-hmm.
Dans l'île Sud, elle est plutôt agitée de tremblements de terre, mais les volcans sont dans l'île Nord. En particulier, le Taranaki, ou Mont Egmont, qui est au sud-ouest, disons à l'ouest de l'île du Nord.
Mm-hmm.
Et il y a une chose de particularité, c'est que les astronautes, les cosmonautes voient quand ils passent au-dessus de cet endroit-là, ils s'aperçoivent qu'il y a une forêt presque parfaitement circulaire.
Oui.
Et c'est parce que la montagne, tous les flancs de la montagne ont été protégés.
Mm-hmm.
On n'a pas vu les défricher.
Mm-hmm.
Donc il y a des champs tout autour, mais sur à peu près une trentaine de kilomètres de diamètre,
mm-hmm.
eh bien il y a une forêt toute circulaire, très visible de l'espace.
Mm. Alors je crois que Auckland aussi, il me semble que vous le dites, est construite sur 53 volcans, je crois.
Oui, j'ai pas le nombre exact,
oui.
mais il y a de très nombreux volcans
mm-hmm.
dont chacun en fait pourrait se réveiller un jour.
Oui.
Pourrait se réveiller un jour, mais certains sont juste des petits, ressemblent un petit peu. Là, qu'on est rentré de Nouvelle-Zélande, on
oui.
est souvent en Auvergne,
oui.
et les volcans endormis de la chaîne des puits
mm-hmm.
ont un peu la même forme, quoi,
mm-hmm.
des cratères comme ça. Il y a des petits cratères éparpillés, partout mm-hmm. dans tout le territoire de la ville d'Auckland. Quoi.
Alors j'ai l'impression qu'en regardant les magnifiques photos, ce sont des paysages très variés, divers et variés. La végétation luxuriante, il y a des volcans, il y a la mer, bien sûr, il y a l'océan. Il y a ces paysages un peu, pas désertiques, mais on a l'impression qu'on est au milieu de nulle part. C'est très impressionnant ces différences de paysages en fonction de l'île du Nord ou l'île du Sud. C'est très varié.
Voilà, tout en étant très différente de mon île natale, Madagascar,
oui.
elle a un point commun, c'est que si on veut changer de décor, de paysage, il suffit de rouler 20 ou 30 kilomètres.
Oui.
Et tout d'un coup, le décor devient très différent.
Mm-hmm.
Il y a des plaines, des montagnes, des routes très tortueuses. Quand on arrive à l'aéroport d'Auckland,
oui.
il y a un message affiché partout, c'est « nos routes, soyez prudents, nos routes sont différentes
».
Il y a très peu d'autoroutes. Il y a des bonnes routes, mais il y a des sacrés virages, quoi. Par
mm-hmm.
exemple, pour aller vers la province sud, la province est, pardon, la région de l'est
oui.
de l'île Nord qu'on a bien aimé, eh ben, il y a un paquet de virages, hein.
Mm-hmm.
C'est assez impressionnant. La géographie du pays est tout à fait étonnante et mm-hmm. l'isolement a fait que la végétation et la faune sont ils n'existent pas ailleurs, quoi.
Mm-hmm.
Il y a la faune est assez limitée, il y a surtout des oiseaux,
oui.
des oiseaux donc bien sûr le kiwi,
oui.
Des perroquets, des lézards, toutes ils ont beaucoup d'oiseaux. Mm-hmm. Et la flore a beaucoup d'arbres qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Quoi. Mm-hmm. Absolument, comme le... Ici, il n'y a pas de cocotier, par exemple.
D'accord.
Il n'y a pas de cocotier, il y a des palmiers nicao.
D'accord.
Qui ressemblent un peu, mais qui ne donnent rien à manger, par contre.
Mm-hmm. Alors, la Nouvelle-Zélande, et notamment une des régions, est assez célèbre pour la fameuse trilogie du silence des... Pas le silence des agneaux, la...
Le Seigneur des Anneaux.
Le Seigneur des Anneaux.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, endroit mythique et fort célèbre en Nouvelle-Zélande pour les amateurs du Seigneur des Anneaux.
Ah oui, par exemple, l'attraction la plus visitée de tout de toute la Nouvelle-Zélande, la plus populaire, c'est le village de tournage de Hobbit. C'est Hobbiton,
oui.
Là où les terriers, les maisons enterrées dans les collines des Hobbits,
oui.
Qui a été créé uniquement pour le tournage du film, qui est préservé, et des millions de gens vont visiter cet endroit. Mmh. Mais dans toute l'île, on vous propose d'aller découvrir des lieux de tournage. Bon, dans ce livre, je parle beaucoup des paysages,
oui,
des lieux, etc., mais beaucoup des gens également.
Oui,
des
oui.
gens, il y a beaucoup de personnalités, et entre autres, bon, le plus connu actuellement, c'est Sir Peter Jackson,
bien sûr.
Qui est réalisateur de ses films, la trilogie, de King Kong, de beaucoup de choses, etc. Et, tout.
Mm-hmm.
Et on retrouve partout des excursions organisées pour retrouver les paysages qui, mm-hmm. qui ont été utilisés pour les tournages. Par mm-hmm. exemple, le parc des volcans.
Oui.
Le parc des volcans, eh bien, il y a un volcan qui a servi de base, bon, avec des effets spéciaux, bien sûr, mais pour le monde Oum, le monde de la malédiction du Seigneur des Anneaux. Et puis, dans toute l'île, on a des images. Sitôt qu'on arrive à l'aéroport d'Auckland, comme à celui de Wellington,
oui.
on voit des personnages à Wellington. Il y a Gandalf,
oui.
Sur un aigle immense qui est accroché au plafond de l'aéroport.
Oui.
Et partout, quoi. On vit à l'heure des personnages
du Seigneur des Anneaux. Oui. Alors, au travers aussi de votre narration, j'ai le sentiment que la culture maori est restée présente, que ils ont leur place, même si quelque part, ça m'embête de dire ça, mais on a quand même volé leur terre, hein, leur histoire. Mais malgré tout, on leur a un peu rendu, et les Maoris restent très présents au sein de la culture et de l'histoire de leur pays.
Oui, oui, les Maoris restent très, très, très présents. C'est vrai qu'il y a eu un traité, le traité de Waitangi,
oui,
qui a été
fait.
Entre Waitangi. Les Anglais et les, qui, par lequel les oui. Maoris donnaient la direction, disons, de leur pays
oui.
à la reine d'Angleterre.
Oui.
Mais, même s'il y a eu des affrontements, il y a eu tout au long des décennies et des siècles, enfin, depuis deux siècles, de plus en plus de place donnée aux Maoris.
Mm-hmm.
Donnée aux Maoris, la tradition, les noms Maoris sont très fréquents. Et puis, les Maoris eux-mêmes organisent beaucoup de choses, quoi. Ils sont très, très constructifs, quoi. Par exemple, pour naviguer sur des vakas, les pirogues
oui.
traditionnelles,
oui.
il y a une famille Maori qui est dans l'île au nord de l'île Sud, dans le parc Abel Tasman, qui est un des parcs les plus beaux du pays.
Oui.
Et c'est une famille qui non seulement enseigne aux touristes l'art de pagayer sur ses pirogues,
mm-hmm.
mais aussi de respecter les traditions, les discours propitiatoires au début, les chants, les manœuvres. C'est toujours très respectueux des Maoris, quoi.
Mm-hmm.
Et le nom Maori est assez amusant parce que quand les indigènes là-bas, on veut arriver des Européens.
Oui.
Ils les ont trouvés bizarres. Ils ont trouvé très différents d'eux.
Bien sûr.
Et donc, ils ont choisi de, on les, ils se sont, ils parlaient, ils ont parlé de même comme Maori, qui veut dire, en quelque sorte, les hommes normaux, quoi.
Mm-hmm.
Les gens normaux.
Mm-hmm.
Alors que les Anglais, les Français leur paraissaient, un peu anormaux.
Un peu anormaux, oui. De par leur attitude, leur façon de s'habiller aussi, tout un tas de codes très, très différents, sans doute, oui. Il faut rappeler aussi que je crois que la Nouvelle-Zélande a été l'un des premiers pays à donner le droit de vote aux femmes.
Voilà, c'est un détail important.
Oui.
Le droit de vote, les Néo-Zélandaises ont eu le droit de vote, près de 70 ans avant les Françaises.
Oui.
En 1880, quelque chose comme ça.
1880.
Alors que les Françaises
oui,
ont dû attendre le général de Gaulle en 45.
C'est ça.
Ou 47.
C'est ça.
Et
oui.
donc, Et depuis le début de ce millénaire, de ce siècle, eh bien, le rôle de la place de première ministre a été tenu plus souvent par une femme que par des hommes.
D'ailleurs, actuellement, c'est une femme.
C'est vrai, c'est Jacinda Ardern.
Oui.
D'Ardern, et avant, Helen Carter, avant, qui a été décisive, qui a été très, très importante. Et vraiment, c'est un pays où la vie est douce, où les gens sont très accueillants.
Oui.
Et où il y a beaucoup de bon sens, quoi, je trouve.
Et au niveau de l'alimentation, des arts, de la culture, c'est vraiment également autre chose. On bascule dans un autre monde également, hormis les paysages et cette fabuleuse faune et flore et cette diversité.
Bon, la nourriture dans les campagnes est assez rustique.
Oui.
Là, c'est pas un pays avec une très grande gastronomie au point de vue de la cuisine, mais si on est dans les villes un petit peu développées, on a des dans les sites touristiques et puis dans les grandes villes, il y a toutes sortes de ressources, etc. Il y a un produit qui est typiquement une groseille de Chine, une groseille de Chine qu'on avait essayé de faire pousser en France dans les années 1960-70 et qui a connu un très grand succès là-bas sous le nom de kiwi.
D'accord.
Voilà. Sous le nom de kiwi, il y a ça. Bon, le mouton.
Ah oui, ça, le mouton. Et il paraît qu'il y a autant de moutons que d'habitants en Nouvelle-Zélande.
Ou même plus. Bon, ça diminue un peu maintenant parce qu'il y a eu un peu de bovins aussi et tout.
Oui.
Il y a plus d'habitants à quatre pattes que d'habitants à deux pattes. Et le plat, en quelque sorte, un des plus fréquemment trouvés, c'est la souris d'agneau. Alors, la souris d'agneau.
D'accord.
Ça, ils adorent ça.
D'accord. Alors, il y a une chose qui est très sympa aussi dans votre livre, c'est que, il y a les témoignages de ceux qui sont allés pour quelques jours, pour quelques mois, pour y vivre, pour s'y installer. Vous avez rencontré aussi tous ces gens-là.
Voilà, c'est un livre. Ce livre qui vient de paraître chez Gallimard, c'est beaucoup des photos, mais aussi beaucoup de récits, beaucoup de rencontres des gens qui vivent là-bas, qui habitent là. Et puis, justement, je vous parlais de cela, c'est des invités en quelque sorte. Ça peut être des Français, ça peut être des étrangers, des gens qui ont choisi de vivre du temps, des jeunes, une photographe animalière très talentueuse qui s'appelle Sabine Berner, et puis des jeunes gens en tout genre certains se sont installés.
Oui.
Voilà, on parlait de gastronomie tout à l'heure, de cuisine, on peut parler des vins aussi.
Les vins néo-zélandais.
Un très grand pays producteur de vin.
Tout à fait.
Le vin est excellent, en particulier dans la région de Marlborough.
Oui. Qui est le sud du sud de l'île du Sud, c'est ça?
Non, Marlborough, c'est le nord de l'île du Sud.
C'est le nord de l'île du Sud, d'accord.
C'est le nord de l'île du Sud, c'est tout près du détroit de Cook.
D'accord.
Et là, par exemple, on a un jeune Français qui, sortant de son école à l'agriculture, a été engagé tout de suite pour créer une plantation, un vignoble, quoi. On est allé lui rendre visite, c'est formidable. Et puis, on a rencontré des tas de gens comme ça, un autre qui est tombé amoureux, d'une part, d'une Néo-Zélandaise, et puis de la nature là-bas, et qui protège les petits pingouins, les petits manchots, les petits pingouins bleus qu'on trouve dans cette région. Et puis, il y a également des personnalités là-bas qu'on rencontre, des artistes. J'ai parlé tout à l'heure de Peter Jackson.
Oui.
Il y a aussi Taika Waititi. Je ne sais pas si vous avez vu un film très amusant, très bien fait, qui s'appelle Roger Rabbit.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et c'est très, très, très... Il a réalisé aussi des films sur les traditions maoris. Et puis également des films sur genre Star Wars, quoi. Il a réalisé un des Star Wars.
Oui. Il y a des grands peintres maoris aussi. Il y a des peintres très connus maoris aussi.
Il y a des peintres. Il y a une femme, alors elle est extraordinaire. Je vous invite c'est une chose à pas rater là-bas. C'est Akaroa. Akaroa, c'est un des lieux qu'on a visité plusieurs fois. Et c'est un lieu très coloré. D'abord, c'est une baie magnifique. Un très bon abri pour les bateaux. Une baie magnifique. C'est là que la Nouvelle-Zélande a failli devenir française.
Et oui.
Un bateau français, c'est l'équipage, etc. Les passagers s'étaient installés dans les années 1870 par là, et ont failli, non plus tôt que ça, 1830.
1830 plutôt.
Oui,
1830-1840.
Ils ont failli, l'endroit a failli devenir
français.
Je pense 1840 par là.
Oui, 1840.
Et l'endroit a failli devenir français, quoi. Ouais, et il reste des descendants des Français qui sont là, et Les rues ont des noms français.
Oui.
Il y a un festival français qui a lieu tous les ans où des gens viennent faire la fête et danser. Il y a même le frère qui dit French Fest, il dit French Cancan. Il y a même le French Cancan.
Mm-hmm.
Et dans cette petite ville qui s'appelle Akaroa,
Akaroa,
il y a une femme extraordinaire qui est un peu l'équivalent néo-zélandais du facteur cheval.
Ah oui, d'accord.
Parce que le facteur cheval, c'est un monsieur qui a une vie assez dramatique, comme le montrait le film, très beau film, publié il n'y a pas très longtemps.
Oui.
Tandis que cette dame qui a créé cette maison, la maison du géant, qui s'appelle Josie Martin, elle est tout en couleur et tout en positivité, quoi. Elle a construit dans son jardin des immenses statues, toutes de ses propres mains, avec des millions de petites pièces de porcelaine, de céramique, et très colorées, des personnages, des musiciens. Il y a un piano, des statues, des décors, des allées, des trucs. La maison, c'est très grand. C'est visité par des millions de personnes, et c'est très, très beau. C'est fascinant, donc. C'est tellement beau qu'on a consacré 4 pages du livre
à
ce travail
qui
est très très beau.
J'ai vu. Alors bien sûr, après les volcans, la végétation, etc. Bien sûr, il y a le bord de mer, il y a les plages qui sont aussi magnifiques et il y en a certaines qui sont quasiment féeriques.
Voilà, les plages, il y a des plages légendaires, comme par exemple une qui a servi de tournage pour un autre film, Narnia, le monde de Narnia.
Oui, tout à fait.
Et puis il y a des îles, des petites îles qui entourent, qui ont une qu'on adore totalement, qui s'appelle Great Mercury.
Oui.
Great Mercury Island, avec la baie Coralie, qui est très très belle, photographiée dans le livre, bien sûr.
Oui.
Et puis il y a toute la partie nord, qui est l'endroit préféré des navigateurs qui arrivent en voilier, dans un endroit qui s'appelle la baie des îles.
La
baie des îles, qui a été le premier endroit peuplé par les étrangers, par les Anglais et les Français. Un évêque, d'ailleurs, Monseigneur Pompalier, y avait installé une imprimerie pour amener l'évangile là-bas. Et puis, tout l'ensemble, cette baie des îles est très, très vaste, avec de très nombreuses îles, des très, très jolis endroits à visiter.
Oui. Est-ce qu'on peut dire malgré tout que c'est un pays un peu méconnu finalement parce qu'il est loin?
Oui, c'est un peu, c'est loin déjà.
Hein. Ah, c'est loin.
C'est loin. Bon, depuis 2 ans en plus, il est un peu.
Avec le Covid, on peut plus y accéder, ça c'est sûr.
Voilà, on est en train de guetter. Moi, notre bateau est actuellement. Confiné en Australie.
Et oui, je sais bien, je sais bien.
On l'avait amené après avoir filmé en Nouvelle-Zélande.
Et oui.
Et on peut pas y retourner, on espère, peut-être on guette, peut-être d'après les dernières nouvelles, on pourra peut-être retourner en Australie à la fin de l'année ou au début 2022.
Oui.
Et j'espère en Nouvelle-Zélande, pas beaucoup plus tard.
C'est pareil que pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie, hein, qui est pas très loin non plus, la Tasmanie.
La Tasmanie fait partie de l'Australie, c'est au sud de la Nouvelle-Zélande.
Tout à fait.
Alors, au sud de l'Australie. La Nouvelle-Zélande est un peu plus froide. C'est un pays, le nord est semi-tropical.
Oui.
Mais il peut faire assez froid, quoi.
Justement, j'allais vous parler de la météo et des saisons. Donc là, pour eux, là, nous sommes en octobre. Pour eux, c'est le début du printemps.
Voilà, pour eux, ils vont vers l'été, là.
Oui.
Eux, nos vacances d'été, eux, ils les prennent en décembre-janvier.
Oui.
Le mois de janvier est très, très réservé vraiment aux vacances. Tout s'arrête dans le pays. Tout s'arrête dans le pays et tout le monde part en vacances.
Donc si on veut aller en Nouvelle-Zélande, la meilleure période, c'est quoi? C'est décembre, janvier?
Alors, pour la saison, la meilleure période, c'est janvier-février.
Oui.
Mais effectivement, si on veut être des moments où il y a moins de tourisme, quoi.
Oui, moins de tourisme.
Eh bien, c'est plutôt décembre et plutôt février-mars, quoi.
Mm. Voilà. Et donc, il fait bon, on peut se baigner, il ne fait pas trop froid, ça va.
Il fait bon, c'est pas la Polynésie, hein.
Oui.
C'est pas la Polynésie.
Oui, oui, mais il fait quoi, 24-25 degrés? 24-25 degrés.
Voilà, l'eau peut être relativement froide, quoi.
Oui. D'accord.
C'est pas une destination, c'est pas la Polynésie. Quoi.
Oui, oui, bien sûr.
Mais la température est compensée par. Ma compagne est très frideuse,
elle se baigne pas.
Elle a un peu du froid quand on est là-bas. Mais il y a tellement de beauté à côté.
Oui,
tellement de,
bien sûr. On n'y va pas pour se baigner.
Il y a beaucoup plus de variétés de faune et de flore que que 10 ans en Polynésie et que 10 ans dans les îles bien tropicales du Pacifique.
Bien sûr. Bah, la Polynésie, en ce moment, pour y aller, c'est vrai que c'est un peu compliqué aussi, avec le Covid.
Je crois que l'accès est ouvert. Mmh. La compagnie locale, Air Tahiti Nui, amène toujours des passagers. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut... C'est un magnifique pays aussi, c'est autre chose. Mais
bien sûr.
Nous, vraiment, on a eu le coup de foudre.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est le coup de foudre pour la Nouvelle-Zélande. J'ai senti au travers de votre livre cette passion. D'abord, les photos, vous faites toujours des livres et des albums et des photos magnifiques. Hein, France, c'était vous, bien évidemment. Mais là, on a senti une réelle passion, un réel coup de foudre, coup de cœur. Si vous deviez, en quelques mots, ou une leçon que vous avez tirée, ou quelque chose qui vous a retenu particulièrement, ce serait quoi, Antoine, pour la Nouvelle-Zélande?
C'est un peu ce que je disais, c'est la grande variété et la gentillesse des gens.
Oui.
Je me rappelle un jour, on était arrivé dans la baie des îles et puis on débarque avec du linge de notre bateau. On débarque, on était à l'ancre au milieu de la baie et puis on débarque avec du linge et on cherche un endroit dans une laverie.
Bien sûr.
Non seulement la première voiture qui est passée nous a amené à la laverie, mais nous a attendu le temps qu'on lave le linge et pour nous ramener.
Tout. Très gentil.
Et on a partout en Nouvelle-Zélande des sensations comme ça, des instants comme ça. Ouais. Quoi. Donc c'est vraiment une gentillesse, très grande gentillesse. Et
je suppose qu'on peut voyager sans souci, on risque rien.
Ah, c'est un pays très sûr. Hein. Ouais. C'est un pays très sûr. Il faut juste être prudent sur les routes, parce que c'est vrai que les routes sont différentes, comme ils disent, et que les camions ils roulent assez vite, ils roulent à la même vitesse que les autres voitures. C'est limité à peu, je crois, à 100 à l'heure. Mm-hmm. Mais ils sont à 100 à l'heure, quoi, sur des routes qui sont pas des quatre voies. Hein. Mm-hmm. Alors donc il faut être prudent, quoi. C'est pas, moi je conseillerais pas une randonnée à vélo.
Oui. Plutôt en voiture, quand même.
Ou alors, il faudrait vraiment bien chercher des routes. Mm. Par contre, des randonnées à pied, c'est extraordinaire. Ouais. Il y a l'équivalent du GR20. Oui. L'équivalent du GR20 qui consiste à traverser toute la Nouvelle-Zélande du nord au sud, du sud au nord. C'est une sacrée randonnée. Mm. Le nombre des randonnées, les amateurs de randonnées, c'est immense. Mm. Beaucoup de touristes y vont avec un van. Parmi nos invités, les voyageurs invités qui sont dans le livre, il y a un couple qui a fait tout le pays à bord d'un van. Mm-hmm. Et lui, on l'a rencontré parce qu'il nous avait amené voir une sculpture extraordinaire sur les bords d'un lac, à bord d'un voilier, quoi, d'un voilier de location.
Et rapidement, donc, parce que malheureusement, il va falloir se quitter, malheureusement, pour nos auditrices et auditeurs qui sont très y aller, raisonnablement, il faut partir combien de temps? 3 semaines pour que ça vaille le coup?
Oh, je pense que oui, hein, ça me paraît difficile. C'est loin.
Ben oui, c'est loin déjà. 20 heures de vol.
3 semaines, ça permet d'avoir une bonne idée. Le pays n'est pas immense.
Oui.
Et on peut vraiment voir, comme je le disais tout à l'heure, changer totalement de climat. On a des forêts presque tropicales avec des arbres géants par ailleurs, les kauris. Les kauris, on a des régions désertiques, on a des montagnes enneigées, on a des glaciers qui arrivent tout près de la mer. Mm-hmm. On peut aller se poser. On est allé se poser en avion à patins.
Oui.
À patins on est allé se poser en avion avec des patins sur des glaciers, le glacier Tasman.
Mm-hmm. Oui.
Survoler le mont Cook également. Mmh. Et il y a une très très grande variété de lieux jusqu'à l'île Stewart qui est tout au sud, qui est l'endroit le plus au sud de la Nouvelle-Zélande.
Pour conclure aussi, pour nos auditrices auditeurs, il y a une lignée montagneuse qui s'appelle les Alpes aussi en Nouvelle-Zélande.
Voilà, vous savez, il y a une chaîne de montagnes, les Alpes du Sud, c'est dans l'île Sud, et il y a des, entre autres, c'est là qu'a fait ses débuts l'explorateur qui a... J'ai un trou de mémoire soudain coup.
Ah, je me souviens pas non plus, ça me revient pas non plus.
C'est du côté des Alpes du Sud.
Les Alpes du Sud, oui.
Qui est né l'explorateur qui a... Sir Edmond Hillary.
Edmond Hillary.
Qui a vaincu l'Everest, a été le premier à vaincre l'Annapurna, quoi, l'Everest.
Parfait. En tout cas, c'est un livre magnifique que vous nous avez offert sur la Nouvelle-Zélande, Aotearoa, le pays du nuage blanc, découvert par les Maoris au XIVe siècle. Je vous remercie infiniment, ça a été de nouveau un beau voyage. On rappelle qu'en mars, le livre le film va sortir et qu'on aura l'occasion de vous rencontrer lors de cette tournée.
Voilà on vous On vous appellera, on vous préviendra et suivant les régions
avec grand plaisir.
On va circuler avec la tournée.
Un grand plaisir.
Eh bien, voilà, on sera heureux de vous rencontrer à nouveau.
Oui. En tout cas,
merci.
Nouvelle-Zélande, chez Gallimard. Voilà, c'était Antoine.
Voilà, c'est notre, je crois que c'est notre 30e album de photos chez Gallimard.
Et oui.
Et c'est là, on y tenait particulièrement. Il a été réalisé en beaucoup de voyages successifs et on a essayé de mettre dans les quelques, je sais pas, 240 pages du livre, les plus beaux lieux et les plus belles rencontres de ce pays fabuleux.
En tout cas, c'est réussi. Merci beaucoup, Antoine.
Merci. Merci beaucoup. Merci
beaucoup. Et à bientôt. Merci.
Au revoir.
J'espère que ce beau voyage vous aura plu. Moi, ça m'a emballé. Et puis, Antoine, ça fait toujours rêver. En tout cas, n'oubliez pas que si vous voulez partir en Nouvelle-Zélande, c'est 3 semaines, 20 heures de vol entre décembre, janvier, février, mars. Quant à nous, on se retrouve pour une nouvelle aventure littéraire. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.